Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jatte, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Combien d'amoureux il a vu passer, combien de prénoms se sont enlacés, combien de serments, de fausses promesses se sont échangés sous son ombre épaisse. Combien d'amoureux ivres de plaisir ont gravé gaiement tous leurs souvenirs. Qui dira le sort des amants lassés dont les doux prénoms se sont effacés.
Libertaire 89.4,
la radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste
et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
La musique
inouïe.
banane maximum. Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Pour d'Alaga.
Vive mon
grand-mère. Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, à Lille-en-Dodon, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières, autres formes de création curieuses, étranges, inouïes. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir deux membres du Quatuor, Quartet, je ne sais pas comment on dit.
Ouais, ouais.
Pomme de terre, avec Aymeric Avis et Nils Mestre. Bonjour les amis.
Salut
Christophe.
Alors, Aymeric, ça fait peut-être 12 ou 13 ans que tu viens dans l'émission, avec le trio Jean-Louis. Mm-hmm. Mais je me demandais hier, en rédigeant les questions, je ne sais même pas si je t'ai demandé une fois quel a été ton parcours d'apprentissage de la musique. Et j'aimerais bien savoir en fait. Quelle a été ta formation musicale?
Ah. Elle est multiple, hein. Elle est, c'est pas que un truc. Hein. Tu veux que je t'explique un peu?
Ouais.
À la maison, disons que mes parents étaient musiciens amateurs, mes grands frères et grandes sœurs aussi. Et, ma sœur est devenue, par exemple, contrebassiste professionnelle. Ma grande sœur, et donc Hélène. Et donc, si tu veux, c'était naturel de faire de la musique, quoi. Et puis, mon père était éducateur. Spécialisé, il travaillait avec des handicapés mentaux et il leur construisait des instruments, il construisait des instruments avec lui. Finalement, il faisait un peu de la musicothérapie avant que le terme soit inventé. Mmh. Bon, je pense que il n'a rien inventé non plus, hein, ça s'est fait, c'est naturel, hein, c'est une médecine douce, enfin la médecine, c'est de la magie quelque part. Et donc voilà, école de musique, harmonie municipale. Groupe de jazz avec ma grande sœur, conservatoire.
Est-ce que tu as fait du classique?
Trompette et orgue à l'église. Ouais, tout ça, quoi.
T'as fait du classique ou...
Ouais, carrément, ouais. J'ai gagné des concours de. Parce qu'il y avait des concours de classique pour les mômes, je gagnais des trucs comme ça.
Maurice André, tout ça.
Quand même pas, mais plutôt régionaux, tu vois.
Ah ouais, super. Et comment t'es venu au jazz alors? C'est par ta sœur?
Oh ouais, je pense. Enfin, et puis par... tu vois, il y avait des disques de jazz et des cassettes, et ben, ouais. J'adorais ça, donc assez rapidement. Ouais. Donc très rapidement, je me suis mis à improviser, tu vois.
Mmh. Ah, oui.
Des enfants, ouais.
Ouais. Et alors moi, je me disais, à l'époque, quand j'écoutais abondamment Jean-Louis, c'était les années 2000, fin des années 2000, je me demandais si... Enfin, moi, je voyais un rapport évident, puisque je venais de là, avec le rock. Vraiment, pour moi, c'était rock. Enfin, tu jouais de la trompette comme on joue de la guitare, presque. Hein. Je sais pas, c'est peut-être bête de dire ça, mais...
Ouais. L'énergie, ouais.
Ouais, l'énergie, et aussi les effets.
Le son, ouais.
Le son. Parce qu'il me semble que tu utilises encore, dans Pomme de Terre, même pas mal d'effets de saturation, par exemple.
Ouais, parfois, bien sûr, ouais.
Et à l'époque, ça se faisait pas beaucoup, il me semble. Enfin, j'ai pas le souvenir...
Pas trop, hein. C'était plutôt les guitaristes qui faisaient ça, on va dire.
Mais comment c'était venu?
Il y avait, Zou, le groupe italien.
Ah bah oui.
Qui était avant nous, hein, avant les Jean-Louis. Et le saxophoniste, il trafiquait son, il avait un son de.
Ouais, ah d'accord,
de barbare.
Ouais.
C'est surtout Zou qui nous ont plutôt influencés, ouais.
Ah, c'est ça qui t'a. Ouais, d'accord. Je me demandais en fait qu'est-ce qui t'avait donné cette idée-là, qui n'était pas vraiment évidente, quoi. Et ça, c'est la musique que t'écoutais aussi, le rock, et Zou et tout ça?
Ouais, bah ouais. Quoi, même du métal aussi, tu vois. Et toutes les musiques, finalement, des musiques ethniques.
Ouais.
Ouais, j'aime tout style, tout, hein, tu vois.
Ouais, bah on vous a reçus à l'époque plusieurs fois avec...
Ouais, avec merci d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Vous êtes bien les seuls.
Ouais, c'est vrai,
ouais. Ah bah, grave. Et la BBC 3, ils nous ont invités à jouer en live et tout.
Ouais. Et vous avez pas mal joué pourtant.
Oui, mais dans des radios. Ah si, peut-être des mini, ouais, des petites radios.
Ouais, mais d'abord en concert, je veux dire.
En concert, en live.
Vous tourniez pas mal, quoi.
Ah oui.
Ouais.
Carrément.
Ah oui, c'est les radios, tout ça, qui vous...
Oh, je pense, ouais, on est complètement passé à côté du truc, parce que c'était pas commercial, du coup, ils s'en foutaient, hein, donc...
Ah ouais, mais...
Ouais.
Ouais,
bien sûr.
Qu'est-ce que tu trouves qu'il y a plus, maintenant, de gens qui s'intéressent aux musiques pas commerciales, ou... Comment tu vois l'évolution, toi?
Je sais pas, moi je suis un peu détaché, hein, dans les Pyrénées, là-bas, je sais pas trop ce qui se passe, moi.
Alors tu sais qu'on a fait une émission avec Christian Vander, il y a quelques mois,
Mais oui, je l'ai écouté. Et bravo d'ailleurs, tu l'as bien interviewé.
Ça faisait plaisir. Écoute, j'étais un peu anxieux parce que c'est quand même.
C'est Christian. Ouais.
Bah, tu vois, Christian, puis c'est une idole d'enfance pratiquement. Ouais. Donc il faut peut-être dire aux auditeurs que tu as joué dans Magma. D'ailleurs, je lui ai parlé de toi.
Oui, j'ai entendu. Ouais. Ouais.
Ah ouais, je lui ai demandé comment ça se passait pour les jeunes. Mais alors, il est très sympa. Hein. Mais qu'est-ce que. Est-ce que tu écoutes toujours? Est-ce que tu suis ce qui se passe avec le groupe maintenant?
Non.
Bon. Ils ont sorti un album là, il n'y a pas très très longtemps. C'est pour ça qu'on l'a invité d'ailleurs. Enfin, on l'a invité, on est allé au Triton.
Ah oui. Ben,
voilà. Donc, tu es resté combien de temps dans Magma?
Une semaine.
Non.
Ah ouais, pour enregistrer une espèce de rétrospective de la musique des années 80. Tu sais, il y a eu 4 DVD en 2005. Et nous, on a fait la musique des années 80. Il y avait Tsess, Otis, des morceaux comme ça.
Ah ouais.
Avec mon pote Hugues Maillot au saxophone. Voilà.
Ah, d'accord.
On a enregistré, voilà. Tous les concerts étaient enregistrés chaque soir, ils ont sélectionné les meilleurs. Et c'est tout. Hein.
Ouais.
Après, on a fait des premières parties avec Jean-Louis, on a fait des premières parties de Magma, c'était cool
super.
Ça. Au Triton, en Bretagne, à Malguenac.
Ah, Malguenac.
Et des fois, ouais, aussi, j'ai aussi buffé avec Magma. Je me rappelle avoir joué deux Futura avec Vander, Blaskiz et. Yannick Top, au Casino de Paris, c'était super.
Si tu as le Malguenac, super, hein, que j'ai découvert cette année, moi. Anil, salut à toi. Quel fut ton apprentissage de la musique?
Alors, moi, j'ai écouté les disques de Jimi Hendrix qu'avait mon père dans sa discothèque.
Ouais.
Donc j'ai eu envie de jouer de la guitare, surtout les disques live, ça me donnait vachement envie. Et du coup, vers 7 ans, j'ai dit « Ouais, je vais apprendre la guitare et tout. » Et de la campagne où on était, il n'y avait qu'une école de musique municipale, une espèce de conservatoire, mais de campagne, avec un prof qui était un gars complètement aigri, qui en fait se faisait chier là-bas et qui, voilà, ça ne lui plaisait pas ce boulot. Du coup, il m'a carrément dégoûté du classique pendant 20 ans, plus même. Et j'ai mis du temps à m'y remettre. Et du coup, j'ai fait qu'une année comme ça, quoi, parce que mes parents m'avaient payé l'année, j'ai fait l'année jusqu'au bout. Et puis j'ai arrêté, je dis, non, mais là, en fait, la musique, c'est pas pour moi. Et quand même, ça me titillait. Il y avait un oncle qui avait une guitare sèche, folk, qui traînait. J'essaie de refaire les trucs, j'ai même repris la méthode, machin. Et puis après, il y a quelques potes qui ont commencé à montrer des accords, les premiers riffs. Et là, ouais, là, ça a commencé à prendre. La gamme blues, et je fais « Ah, mais d'accord, c'est comme ça que ça marche !» Et j'ai recommencé à repiquer des solos des Stones. C'était facile.
Il y a une grande part d'autodidactisme, je ne sais pas si on dit comme ça. Ouais.
Et donc, mais quand même, après, vers 15 ans, 14 ans, j'ai retrouvé un prof, j'ai repris des cours, un mec qui était branché de jazz, c'est lui qui m'a fait bosser mes premiers standards.
Mmh.
Sans que je sache, d'ailleurs, ouais, j'ai une anecdote marrante à ce propos, c'est que j'avais le seul conservateur qui faisait du jazz dans la région, c'était à Saint-Étienne. Et j'ai passé l'audition, et je pense que je m'en suis pas trop mal démerdé, c'était un standard. Mais là où il m'a piégé, le prof, c'est parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'élèves qui postulaient.
Ouais.
Il m'a dit, t'écoutes quoi comme guitariste d'aujourd'hui? Donc c'était dans les années 90, hein. Et moi, pour faire bien, je lui ai dit Scofield et Pat Metheny.
Ouais.
Il me dit « Ah, tu devrais écouter Django et Wes Montgomery. » Et en fait, c'est exactement ce que j'écoutais.
Ah merde, coup, ah, bah, tu vois.
Et voilà, c'était une bonne leçon.
Ah oui, c'est bien. Très bonne
Après, leçon. J'ai fait l'école Atlas, je suis monté à Paris à 20 ans, j'ai fait l'école Atlas.
Ah oui, mais alors justement, tu parles de Paris, je sais que Emmerich et pas mal de musiciens maintenant de cette génération-là ont fait partie de Radiation 10, tu vois.
Mm-hmm,
et je voulais savoir, toi, quelles ont été les formations avec lesquelles tu as débuté à Paris, si...
Il y a plein de trucs. Il y a eu le premier groupe, un groupe funk, là, c'était James Seri, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est le fils de Mauro Seri.
Oui.
Tu vois qui c'est, non?
Voilà. Non.
Qui joue avec Bill Durham, ça, c'est un vieux, vieux session man. Il est encore vivant, il joue super, Mauro Seri. Et donc, mais par contre, James Seri, je sais pas trop ce qu'il est devenu. Il a fait de la télé, tout ça. Il est un peu disparu apparemment. Mais avec lui, c'était vraiment funk, quoi. C'était vraiment, c'était cool, quoi. C'était de la grosse impro en fait sur des grooves, batterie, sax. Et mon pote Alban Chappelle au sax. Et ça, c'était un des premiers vrais groupes. Après, j'ai accompagné plein de gens, j'ai fait plein de trucs différents.
Ah ouais. Alors, tu vois, je suis étonné que tu me parles de funk et de groove, parce que c'est vrai que je t'avais pas vu là-dedans. Et alors, moi, les premières fois que je t'ai vu, c'est dans le cadre de la musique improvisée dite libre. Ouais. Et après, j'étais étonné de te voir en très bon jazzman. Vraiment solide.
C'était où ?
Bagage de jazz. Et là, tu me parles de funk. Mais alors, justement, je voulais revenir à cette histoire de musique improvisée. Donc, quand je dis libre, c'est, tu vois, des formes plus minimalistes, on dit non idiomatiques, des choses comme ça, tu vois, un peu. Et la dernière fois que je t'ai vu, même improvisé, dans le cadre des jams, j'ai vu que tu t'orientais, peut-être, alors c'est peut-être moi qui délire, mais j'ai l'impression que tu t'orientes vers des trucs plus énergiques.
Ouais, bah, c'est sûr que, oui, il y a l'influence pomme de terre, hein. Il y a un truc qui s'est passé là. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé ça, en fait. Non, des groupes que je faisais où il y avait l'énergie, où il y avait de l'interaction avec le public et tout ça, ouais. J'ai toujours kiffé. Hein. J'ai quand même fait des... Ah ouais, ça faut que je te raconte aussi. J'ai quand même fait des premières parties de Lenny Kravitz avec les chevals, devant 20 000 personnes, quoi. Ça, c'est un truc de ouf. Ça te change un homme. Et une femme aussi.
Et c'était où ?
C'était dans toute l'Europe. Il y a une dizaine de stades.
Comme ça. Ah, des stades, carrément.
Ouais.
Ah, punaise, ouais.
Là, quand tu branches tes pédales là, et que tu as quelqu'un devant qui te fait coucou, et tu fais « Ah, coucou !» Et là, t'as 5000 personnes, ah tu te dis « Ah ouais, je suis... »
Ah, ça change des cartes,
rien, quoi.
Oui, cartes parisiennes.
Ouais. Ça change de Tchaïski et des Chamard, ouais. C'est mais les deux sont bien. Hein.
Ouais, j'entends bien. Eh ben, je propose qu'on... Alors, j'ai pas dit tout à l'heure, en débutant l'émission, nous avons écouté... le début de l'album de Pomme de Terre dont il va être question aujourd'hui. Et ben, je propose qu'on écoute un deuxième extrait. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres avec aujourd'hui le groupe Pommes de Terre.
Émeric Attis. La moitié du groupe. Hein? Seulement la moitié.
Oui, la moitié du groupe, pardon. Oui, mais on parle du groupe Pommes de Terre avec la moitié du groupe, effectivement. Je voulais faire un jeu de mots avec Pommes de Terre, mais bon, ça viendra plus tard.
Ouais, on a pas mal.
Émeric Attis, le trompettiste, et Nice Mestre, un des guitaristes. Alors, bah peut-être pouvez-vous nous présenter l'autre moitié du groupe, nous dire avec qui faites-vous ce quatuor.
Ouais, d'accord, ben c'est un deuxième guitariste, c'est Richard Comte, énorme, comment dire, Richard Comte quoi.
Bon, on le connaît,
Hippidictate, etc.
Il est venu nous voir plusieurs fois, la dernière fois pour Hippidictate, je crois.
Ouais, sûrement, ouais. Il fait plein d'autres trucs aussi.
Ah oui.
Et à la batterie, Étienne Dimiac, qui habite à Tours, qui est dans le collectif Capsule. Voilà. Pareil, hein, il tient la baraque. Hein. D'ailleurs, Zimniaki, en polonais, ça veut dire pomme de terre.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Et donc, ça vient de là un peu le nom du groupe.
Ah bah voilà, d'accord. Ouais.
C'était aussi un hommage à Courge, c'est le groupe de Matt Conture.
Ah d'accord, ouais.
Ouais.
Ah bah tu vois, je vais savoir pourquoi le nom du groupe, alors ça me rassure parce que je redoutais une réponse à la Gilles Deleuze et tu vois les rhizomes et tout ça.
Bien un télo, non, bah,
non c'est très
Gilles
bien,
Deleuze hein. J'aime bien par contre.
Ah oui, c'est très bien, enfin bon. Ouais. Et alors comment a démarré le groupe? Comment tu en es à l'origine, Émeric, me semble-t-il?
Oui. Ça a démarré... lors d'une résidence, j'avais une carte blanche à son divers. C'est Fabien Simon et Moussassi, voilà. M'avaient donné carte blanche, donc j'avais monté Pommes de Terre à l'époque en trio avec Étienne, donc Zimniak, et Julien Després à la guitare. On a fait un premier enregistrement qui a été diffusé pendant le Covid. Là. Et ensuite, bah, Julien, il a ses groupes, il est jamais disponible, tu vois, pour.
Ouais.
Faire des concerts, donc j'ai appelé Nils, mon vieux pote Nils, et on a joué une ou deux fois en trio, ou trois fois, je sais plus.
Ouais.
Et ensuite, ensuite on a invité Richard en plus, cet été là, puis bon, c'était tellement bien qu'on reste comme ça maintenant.
Et oui, alors attends, moi je voulais revenir un petit peu, je me souviens de vous avoir vu, mais en étant privilégié... en tant que je ne sais pas quoi, je vous ai vu à Arcueil, et puis après, juste après, alors je pense que c'était une répétition publique, tu vois, un truc comme ça. Parce que c'était au moment du Covid.
Bah c'était ça, c'était ça, la captation, là.
C'est la captation. Alors après, il y a eu la captation, qui était super d'ailleurs, avec le vidéaste...
Romain.
C'était après c'était pas le même jour, c'était là, peut-être quand on s'installait, t'étais venu, d'accord.
Ouais, ouais. Okay. Et avec un danseur même.
Oui, Andrea Wamba, ouais.
Ah oui, c'est un nom, Germination, voilà.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ça c'était super. Mais c'est toujours disponible d'ailleurs, je pense, sur la plateforme de son univers. Ou sur Internet, sur YouTube.
Oui, sur YouTube, je crois qu'il y en a une ou deux, ce truc.
Ouais. Ah, ouais. Et vous aviez été en résidence, donc je crois que même Fabien Simon nous en avait parlé. Et alors... Peut-être, moi, ce que j'aime bien savoir aussi, c'est comment...
Je me rappelle. Je me rappelle, c'était un concert public. C'était pas la captation. Exact.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Ok.
Oui, c'est un après-midi.
Oui, très bien. Je me rappelle.
Arcueil. Et très belle salle d'Arcueil, d'ailleurs. Et très bon cinéma, dans lequel j'étais hier. je voulais savoir comment se construit la musique de Pommes de Terre, sens des compositions. Mais je crois que non, hein.
Dans quel sens du terme? Ouais,
c'est composition, ça veut dire on écrit sur partition.
Ah oui, bah non, il n'y a pas de partition, on se dit rien du tout. On y va, quoi, hein. On joue. C'est 100% improvisé.
100% improvisé.
Ouais, on peut se dire 2-3 trucs avant ou après, éventuellement.
Tu confirmes, Nils, est-ce qu'il y a des consignes?
Je me souviens, au studio de l'Ermitage, on était en trio là. Juste avant de monter sur scène, il s'est retourné vers Étienne et moi et dit « On se dit un truc ?»« Oh, non, on se dit rien, c'est bon. »
Et alors, tu as parlé, Émeric, de la transmutation du trio en quartet. Et pourquoi avoir fait appel à un deuxième guitariste plutôt qu'un bassiste, allez, par exemple, tu vois, ou un tubiste, ou je ne sais quoi? Pourquoi deux guitares?
Pourquoi des guitares? Parce que je trouve ça très curieux et très intéressant. Bon, j'adore les bons guitaristes, hein. Ça c'est sûr. Ça laisse plus de place à la batterie, on va dire. De ne pas avoir de basse, par exemple.
Ouais, ouais.
C'est aussi plus difficile, je pense. Et, par exemple, la grosse caisse peut servir de basse, finalement.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Moi, je peux, avec mes effets, je peux produire des basses. Les deux gratteux aussi. Et ouais, voilà, j'aime bien cette énergie, quoi.
Ouais. Et alors, Nils, je voulais savoir si vous avez, avec Richard, donc, des rôles bien définis. Est-ce qu'il y en aura un qui serait rythmique et l'autre qui ferait des solos?
Non, on fait à l'écoute, en fait, c'est sur le moment.
Ouais.
Par contre, ouais, au niveau de la base, je voulais dire, on a, depuis là, on a adopté, enfin, depuis le premier concert, en fait, avec Richard, on a adopté la formule, on a chacun un ampli basse, en fait, et un ampli guitare.
Ouais.
Donc, du coup, on a des grosses basses profondes quand on veut et on peut, enfin... Tu vois, on peut jouer ce rôle de bassiste, lui en se désaccordant, moi avec le vibrato.
Ah d'accord.
En général, mais...
Vibrato, c'est-à-dire?
Bah, je pousse le vibrato à mort pour faire...
Ah oui, d'accord.
Et dans la musique improvisée, finalement, le rôle de la basse est extrêmement compliqué. Parce que finalement, dès qu'il change de note, il change toute la tonalité, tu vois. Et donc c'est... Pour le reste du groupe, ça peut être enfermant dans une tonalité alors que t'aurais pas envie finalement. Et c'est beaucoup plus rapide finalement, ces transitions sans basse.
Ouais, ouais, ouais.
Ça prend beaucoup de place une basse. Mais,
ouais, ça fait une inertie. D'ailleurs, on le voit avec le groupe, le nouveau quartet dont on parlera tout à l'heure.
D'accord, ouais, ouais. Ah, c'est marrant, j'avais jamais pensé à ça. Et alors, j'ai lu ça, alors tu sais les trucs sur internet des fois, bon c'est un peu des conneries des fois, mais là je sais pas, j'ai lu qu'il y avait un rapport à la transe, est-ce que, moi ça me parle un peu, mais est-ce que vous pouvez parler de ça, est-ce que c'est une réalité, est-ce que c'est quelque chose de cet ordre que vous cherchez à obtenir en jouant?
Ouais, carrément.
Ah ouais,
d'ailleurs tu me posais la question là, la musique minimale et tout.
Ouais.
Il y a une recherche là, que j'ai en ce moment, et notamment avec La Brunaire, là, le duo que j'ai avec Annabelle Pierlot, ce duo de chant et guitare. Elle est vachement branchée là-dessus, sur la trance, elle fait des recherches là-dessus. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé, et en fait, que j'ai toujours ressenti quelque part. C'est ce moment où le mental ne fonctionne plus, quoi, en fait.
Ouais.
On arrive à déconnecter le mental et à être que dans le corps et dans le moment présent. Et avec Pomme de Terre, c'est vraiment ce qu'on vit à chaque fois, en fait. À chaque concert, on a ce truc-là de plus réfléchir, en fait. On n'est pas en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on a fait.
Et toi, Ebri, par rapport à ça?
Ouais. Alors, des états de transe comme ça, bien sûr. Et de temps en temps, il faut un petit retour à la réalité aussi pour justement changer la forme, créer des... Tu vois, aller ailleurs à chaque fois. C'est un peu mon rôle dans ce groupe-là, j'ai l'impression.
Ah, c'est toi qui...
Ouais. Et puis, Étienne aussi. Étienne, dès qu'il s'arrête ou dès qu'il rentre, ça change presque tout. Enfin, tu vois, c'est la batterie dans un groupe,
Oui, oui, et puis on l'entend bien dans le morceau.
Dans le groupe, j'ai l'impression d'essayer de gérer cette énergie, justement, de la contenir des fois, et des fois, tu vois, un peu comme ça. Mais peut-être que c'est complètement faux, j'en sais rien.
Non, si, c'est vrai. Mais c'est plus, enfin, pour moi, c'est plus dans l'instinct que dans la réflexion. Je me dis, tiens, ah, il a fait ça, alors je vais faire ça. C'est plus, instantané, avec les oreilles, quoi.
Ouais.
Garder les oreilles libres, quoi.
Les oreilles libres. Ouais. Eh ben, je propose qu'on écoute la fin du disque dont on va parler après. We'll be right back. Nous venons d'écouter la troisième piste, une troisième piste du disque qui sort aujourd'hui. Et alors, ça nous arrange bien ici dans l'émission que le disque soit en plusieurs parties, mais il me semble, je me demande, est-ce que c'est bien conçu pour un tel genre d'écoute morcelé?
A priori non, hein. A priori ça s'écoute d'une traite, mais moi je me dis si j'ai envie de c'est égoïste, hein. si je suis dans ma voiture, j'écoute ce disque, j'ai envie de réécouter ouais. un morceau, ah comment je fais
eh oui.
s'il n'y a qu'une piste.
Et donc voilà,
on a mis des index, donc voilà, on peut
des index voilà.
avancer si on veut écouter la fin, on tape un peu.
Mais peut-être il faut parler des conditions dans lesquelles ont été enregistrés le disque. Est-ce que c'est des studios?
Non, c'est un concert. C'est un concert à Strasbourg, là. Ouais, ouais. C'est le concert en entier, en fait.
Et alors, vous pouvez nous dire, c'était quand? C'était dans quel cadre? Enregistré par qui?
Oui, ben, c'était à Strasbourg, au Festival Jazz d'Or.
Ah oui, d'accord.
En novembre dernier, je crois, fin novembre.
Au Fossé des 13.
Au Fossé des 13. Et donc, Jazz d'Or, un label depuis... 2 ans, je crois. Ça s'appelle Jazz d'Or Series. Ouais. Et il va nous sortir sur son label le disque de Pommes de Terre. Voilà, c'est ça.
Ouais. Il sort aujourd'hui.
Oui, puisque nous sommes le 28 avril aujourd'hui. Oui, oui, alors c'est pas vrai du tout. On est en mars, mais l'émission est diffusée en avril. Et alors des concerts, j'imagine, vous en avez fait d'autres. Pourquoi celui-ci? Pourquoi c'est à l'initiative du label, c'est ça?
Ouais.
Ouais, c'est ça. Et ouais, donc l'énergie du live, c'est ça.
Exactement. Puis tu vois, financièrement, c'est pas très cher. Hein, t'enregistres un concert, et voilà. Alors ouais. Pour nous, fallait que on fasse de la bonne musique ce jour-là.
Et
ouais. Bon, c'est arrivé. C'est cool. Et qu'il n'y ait pas de problème technique ou d'un train qui arrive pas ou je sais pas quoi. Toi, que tout le monde soit là, ça s'est bien passé. Donc, merci au label de nous sortir ça. C'est...
Ah ouais. Est-ce que c'est envisageable de Pommes de Terre de faire un disque en studio? Est-ce qu'il y aurait l'énergie et...
Ouais, je pense.
Ouais.
Mais c'est toujours mieux en live. On est des musiciens de live, on n'est pas des musiciens. C'est un métier aussi hein, d'être en studio et d'envoyer vraiment, tu vois, au moment où il faut. C'est compliqué.
Et ouais.
Faut que les quatre personnes soient tous connectés à 100%. Dans le studio, t'as toujours la possibilité de refaire.
Ouais.
Donc, il suffit qu'il y en ait un qui soit un peu, tu vois. Ouais. Et on n'est pas à fond, quoi.
Ouais. Alors, après, en live, il faut que la prise de son soit bien, soit bonne aussi.
Voilà, ouais, c'est une prise de risque comme ça.
Ouais. Et alors, le moment est venu de parler du titre du disque qui nous semble, ici, sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu ni maître, qui nous semble assez obscur. L'apocalypse selon Saint-Niels. Parce que vous pouvez, j'allais pas nous expliquer, mais j'irais plutôt vous justifier.
Bah, là, je laissais Emmerich parler. Hein.
Oui, Niels, oui, je crois que...
Bah, c'est une... C'est une connerie parmi d'autres. Hein, on écoutait le disque avec Niels.
On était en train de faire les index, en fait. On était en train de se dire où est-ce qu'on pouvait mettre des index.
Ouais.
Et vers la fin, si vous écoutez le disque, c'est le chapitre 8, je crois, non?
Ouais.
Chapitre 8, qu'on va écouter tout à l'heure. Tu joues en duo avec Étienne. Et j'étais là, je rigolais, je disais « Ah, mais c'est l'apocalypse selon Saint-Niels, là !» Et puis après, ben, tu vois, faut trouver des noms, parce qu'on aime bien trouver des... Enfin, on est obligé, quasiment. Donc voilà, c'était le nom, quoi, du truc.
Ah oui, tu m'avais dit par Internet que c'était le nom de cette fameuse piste 8, et puis finalement, c'est devenu le nom du disque.
Ouais. C'est rigolo, quoi.
Ah oui, bah...
Rien de plus. Hein.
Et alors, j'aimerais savoir si... Alors, le disque aura-t-il une existence matérielle, c'est-à-dire, un objet, c'est
ouais.
ça que je veux dire.
Ouais. CD, ouais, un CD.
Un CD, pas de vinyle?
Non.
Et donc j'imagine également une existence dématérialisée.
Oui.
Et j'aimerais savoir, l'un comme l'autre, est-ce que vous avez des opinions sur ces questions relatives à la production discographique et le fait de faire des choses sur Internet ou en matériel, ou en matérialisé?
C'est un long débat, hein, je pense. Je sais pas, moi des fois... Ça dépend, en fait. Moi, je suis très content de Bandcamp, par exemple. Je trouve que c'est une plateforme super où j'écoute plein de super musique. Ouais. Et donc, de temps en temps, j'achète aussi.
Ouais, ouais.
Et j'arrive à vendre aussi, des fois. Après, c'est sûr que... Et puis, le son est bon. Mais après, il faut avoir un système de son qui est branché sur ton ordi, qui est bien et tout ça, quoi. Je regrette un peu l'époque où on avait une chaîne, une platine vinyle. Moi, j'en ai plus depuis longtemps. C'est sûr que le son est complètement différent et c'est vachement mieux. Et... Donc, après aussi, de produire des disques, j'ai tellement vu, moi, dans ma vie, des cartons de disques qui traînent pendant des années qu'on n'arrive pas à vendre. Si on n'a pas assez de concerts, on ne les vend pas. Et par contre, en concert, oui, c'est bien, c'est même carrément indispensable d'avoir du physique, parce que sinon, tu ne vends pas de disques, quoi.
Oui, parce qu'avant, quand même, moi, je me souviens, les disques, on les achetait en magasin et tout ça. Mais ça se fait plus.
Pas les nôtres, hein. Enfin, en tout cas, pas les miens.
Ouais, bah, enfin.
Eh ben, Pomme de Terre, il sera dans les magasins, figure-toi. Apparemment.
Super.
C'est ce qu'on m'a dit. Je sais pas si c'est Fnac ou des trucs comme ça. Mais...
C'est bien. Et toi, Émeric, par rapport à ça, la production sur Internet, ça te dérange ou pas, ou comment?
Franchement, j'ai pas d'avis. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut.
Alors, lors de la diffusion de l'émission, le 28 avril, donc, c'est aujourd'hui, donc, le jour de la sortie du disque. Et j'aimerais savoir s'il y a une fête de sortie du disque qui est prévue.
Oui. Alors, sortie du disque le 31 mai à la Dynamo de Pantin, à banlieue bleue. Là.
D'accord, dans un mois, d'accord.
Ouais, un coplateau avec...
Dans un mois, dans 3 jours. Enfin, non, aussi dans un mois,
pardon.
Ah oui, je suis con. 31 mai, oui.
C'est ça. En gros, dans 3 mois, quoi. Ouais. Donc le 31 mai.
Ouais, en coplateau avec Brandon Seabrook Trio, donc des New Yorkais. Ça va être super.
Ok. D'accord. Donc,
soirée guitare.
Soirée guitare.
Ouais, pour les guitaristes, ouais.
Ah, ouais, super. Donc à la Dynamo de banlieue bleue à Pantin. Émeric, j'ai vu sur les réseaux sociaux que je t'ai vu jouer de la batterie. J'aimerais savoir si tu en joues comme ça pour rigoler, pour te divertir, pour t'amuser, ou est-ce que c'est un instrument que tu travailles?
Ah ben, tout ça, ouais. Je le travaille depuis longtemps, finalement, tout seul. Hein.
Ah bon? Ouais.
J'ai dû prendre 3 cours dans ma jeunesse, et puis voilà, après j'ai appris tout seul. Ben, disons que quand je travaille la musique, en général je travaille la trompette. Et la trompette, on ne peut pas jouer éternellement, hein. À cause des lèvres.
Ouais,
donc tu joues 20 minutes hein, déjà.
Ah ouais.
Ouais, t'es bien fatigué. Donc j'alterne. Ensuite, je vais travailler la batterie pour moi, pour triper en fait. C'est ma passion. Après, la musique, c'est ma passion, la batterie.
Oui, ouais.
Et puis après, je rejoue de la trompette. Et donc, depuis des années comme ça. Et donc là, on a monté un groupe. Avec Nils à la basse, Bruno Ducré à la guitare et Antoine Viard au saxophone ténor.
Ah bah super, bah je propose qu'on écoute.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous venons d'écouter, dans les oreilles libres, un extrait d'un nouveau groupe, me semble-t-il, avec Aymeric Avis à la batterie, Nils Mestre à la basse, Bruno Ducret à la guitare.
Et à la voix, on l'entend pas beaucoup, mais...
Ah ouais, ouais. Et Antoine Vien, ouais, au saxophone. Et ce groupe a-t-il un nom ?
Pour l'instant, c'est Mourir à la FNAC.
Mourir à la FNAC, oui, alors tu parlais de conneries, effectivement. Ben, pouvez-vous nous en parler ? Comment ça s'est créé ? Comment est-ce que c'est récent ?
Ah oui, c'est tout récent, ouais. On a fait deux sessions, là. La dernière, c'était la semaine dernière. Et bah, c'est parti, Emery qui m'a dit « T'as une basse ?» Je fais « Ouais ». Tu vas dire, on se fait un groupe avec Bruno, basse, batterie, quoi, et guitare. Et moi, et Bruno, je l'avais jamais entendu en vrai, mais j'avais vu une vidéo et tout, et je savais qu'il jouait très bien de la guitare.
Ouais.
Et Bruno a branché Antoine de son côté, donc voilà, on se connaît tous depuis un bon moment, et on rigole bien.
Oui, parce que Bruno Ducret est violoncelliste, plutôt,
ouais,
je crois.
Ouais.
Ouais. Ouais, tiens, tu dis on se connaît depuis un bon moment, et justement, j'ai zappé ça tout à l'heure. Comment vous êtes rencontrés, tous les deux ?
Avec Aymeric, c'est les chevals. C'est comme ça, en fait. Quand je suis arrivé, donc je sais pas, je t'en ai déjà parlé, des chevals, tu vois.
Ben non, ouais,
c'est, ouais. En plus, ils existent encore.
Ah ouais ?
Les papis, mais oui ! Ils existent encore. Moi, ça fait, je sais pas, 6, 7 ans, 8 ans que j'ai arrêté. Mais je suis resté un bon paquet d'années. Et quand je suis arrivé, en fait, c'était le remplaçant d'Emeric, c'est Brice Moscardini,
ouais,
qui m'a branché, en fait, qui m'a dit, oh, il cherche un guitariste et tout ça. Et je suis arrivé à la répète. Voilà, je crois que la première, c'était Brice. Et puis, le premier concert avec les chevals, c'était avec Aymeric, qui remplaçait son remplaçant.
Ouais.
Et voilà, et j'ai tout de suite, on a bien accroché. Je me souviens que c'était la première fois qu'il y avait un guitariste dans les chevals. Alors, j'avais des indications de chacun. Il n'y a pas vraiment de leader dans ce groupe. Tout le monde me disait, ah, les guitares, ce serait bien qu'elles fassent ça, ça serait bien qu'elles fassent ça. Et Aymeric, il m'a dit, ouais, en fait, fais ce que tu sens, quoi. Et donc, ça, c'était cool. Et au premier concert aussi, ça, je me souviens. Donc, moi, je bossais mes parties, tu vois, parce qu'en plus, à cette époque-là, j'essayais de faire le métier, quoi. J'essayais de gagner ma vie en faisant le boulot le mieux possible. Donc, voilà. Hyper propre et tout. Et au premier concert, il y a une partie de trompette que je connaissais bien. Enfin, j'avais déjà entendu en répète. Et moi, qui joue complètement autre chose. Et j'ai fait, ah yes, ok. C'est possible, donc. Et là, c'est parti pour quelques années de cheval où on a quand même... On s'est pas pris la tête, mais plusieurs fois quand même, ils m'ont dit « Ouais, t'as pas fait ce qui était prévu. » Voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. Et puis après, et à cette époque-là, donc moi qui essayais de gagner ma vie, j'allais voir Aymeric en concert, j'allais voir dans ses groupes free et tout, et je trippais, quoi. Et puis Jean-Louis, dès le premier concert. Donc ça fait longtemps qu'on se croise, et puis qu'on, de temps en temps, on boit des coups.
Ouais, mais alors parce que tu vois, on avait fait une carte blanche, on avait proposé à Aymeric, et puis il a tout de suite voulu que tu viennes. Et à l'époque, je vous avais pas demandé quelle était la connexion entre vous, quoi. Mais revenons à Mourir à la FNAC. Mourir à la FNAC. Donc, qui a été à l'origine du quartet ?
C'est moi et Bruno, je dirais. On s'est dit, je dirais, moi je fais de la batterie depuis longtemps. J'ai monté un groupe. Il me dit, ah ouais, vas-y, moi aussi. Et voilà, comme ça.
Ouais. Et alors, toujours les mêmes questions. Est-ce qu'il y a une part de composition ? Quelle est la part d'improvisation ?
Pour l'instant, non, c'est complètement improvisé. Mais, on s'empêche pas de peut-être fixer des trucs.
Et alors, oui, voilà. Et c'est ouvert. Et est-ce que c'est une nouvelle formation en devenir, ou est-ce que c'est une rencontre occasionnelle ?
Bah, on a fixé une troisième session là, donc je pense qu'on va se revoir, et puis si on a des concerts, on les fera, hein. Enfin, si on a des propositions, ou peut-être on va chercher. Pour l'instant, on essaye de se trouver un son de groupe, quoi.
Ouais. Et alors, tu joues de la basse, est-ce que ça t'arrive souvent, ou c'est comme...
Ouais, j'ai fait plusieurs groupes où je jouais de la basse, mais non, là, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé.
Ouais.
D'ailleurs, ma basse est complètement rincée, et du coup, c'est Bruno qui m'en a prêté une, là, qui est bien.
Ah, d'accord.
Qui est super. Après, on verra. De toute façon, on fait un peu ce qu'on veut, hein, on n'a pas de contrat.
Ouais. avec
une on enregistre, ouais, et puis on se fait plaisir. Puis voilà.
Ah bah super. Bah merci en tout cas de nous avoir proposé de l'écouter en exclusivité,
ouais, bah ouais,
comme on dit, comme on dit à la radio, comme à la radio. Et alors, Aymeric, si je me souviens, on a parlé de Jean-Louis. Alors Jean-Louis, c'était assez composé quand même.
Oui.
Et je voulais savoir, donc là, ça fait deux groupes dont on parle, Pommes de Terre et Mourir à la Fnac, où c'est pas très très composé, dans le sens.
Prévu à l'avance, tu veux dire.
Prévu à l'avance.
Mais
oui,
c'est composé en temps réel, du coup. Ouais.
Parce que c'est composé en temps réel, effectivement. Mmh. Alors, je voudrais savoir, est-ce que tu es fâché avec les partitions, la composition, telle qu'on l'entend ?
Non, je suis pas fâché, non. Je suis pas fâché.
T'es pas fâché, mais tu t'en éloignes, là. Tu recherches pas vraiment des.
Non. Mon but, c'est pas d'écrire des symphonies, ouais. Moi. C'est de faire de la musique. Je suis muet. Après, j'aime bien jouer de la musique écrite quand elle est bien, tu vois.
Ah oui,
ouais.
Oui.
Parce que c'est une sacrée contrainte quand même de lire, d'interpréter une partition. Donc je le fais, je sais le faire, mais je fais pas que ça, quoi.
Ouais,
donc,
ouais.
Je le fais dans plein d'autres groupes et avec mes groupes, je me dis.
Ah d'accord.
Tu vois, ouais.
Ah ok.
Ouais.
Eh ben très bien. Tu en as parlé, Nils. On va écouter La Brunaire.
Yes, cool.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. On vient d'écouter La Brunaire.
Ah oui.
Et dont tu nous as parlé tout à l'heure, Nils, donc c'est un duo.
Ouais, c'est un duo qui est né il y a un an avec Annabelle Pirlo à la danse, à la performance, une performeuse assez incroyable. Et ça, c'est un extrait, enfin, c'est la fin du concert, du premier concert qu'on a fait au Zorba, où, pour la première fois, j'ai vu le Zorba retourner, c'est-à-dire qu'il y avait au début des potes, pas grand monde en bas, ouais. Et au bout d'une heure et quart de concert, il y avait tout le bar d'en haut qui est descendu et qui est venu faire la fête avec nous, avec la sono qui a résonné à mort. Et donc, voilà, ils ont été obligés de virer tout le monde à la fin, parce que c'est pour ça qu'on entend, à la fin le c'est pas le DJ, c'est le l'ingé son qui met un disque tout pourri pour faire partir les gens parce qu'il faut fermer, quoi.
Mais alors, comment t'expliques ça? Moi, j'en ai vu des concerts aux Zorba avec des groupes qui ont la patate et tout. Là, c'est un duo, mais avec une danseuse, donc tu es seul musicien.
Ouais.
Mais qu'est-ce qui a provoqué cet enthousiasme, on va dire?
On voit que t'as pas entendu déjà. Et non, parce que c'est un peu la techno.
Ah oui,
c'est une espèce de truc où je fais. En fait, je vais t'expliquer quand même le dispositif.
Ah oui,
c'est,
oui.
J'ai un ampli guitare, donc j'improvise sur la guitare, et mon signal de guitare, il passe dans des pédales qui font, c'est des slicers, on appelle ça. Enfin, c'est, il y en a qu'un en fait. C'est un truc qui découpe en tranches le son et qui fait du coup qui donne un rythme. Et du coup, qui va faire une espèce de canevas rythmique sur ce que je suis en train de jouer. Ouais. Et aussi avec des espèces d'arpégiateurs, des octaves comme ça, qui font que t'as une espèce de rythmique qui se crée sur ce que je suis en train de jouer. Mais quand j'arrête de jouer, il n'y a plus rien. C'est pas des boucles.
Ah d'accord. Ah, c'est pas des boucles.
Non, c'est pas des boucles.
Ah oui.
Et donc tout ça pour passer dans la sono à balle. C'est-à-dire que même à un moment, j'ai cru que j'allais casser la sono, et l'ingé son m'a dit que non. Et du coup, c'est ce qui a fait descendre les gens, c'est que c'était hyper fort.
Ah ouais.
Et que c'était, et ça dansait. Et Annabelle, qui reste pas sur scène, qui bouge partout et qui se mêle aux gens, elle a mis une ambiance de ouf. Donc voilà quoi. Ah et, oui. c'est, et on a fait que 3 concerts pour l'instant, mais à chaque fois c'était ça.
Ah ouais. Alors effectivement, moi j'avais pas entendu avant ce qu'on a écouté là, mais j'ai entendu sur Bandcamp. Elle crie aussi parfois.
Ouais,
c'est ça. Et alors, comment vous envisagez l'interaction entre la danse, puisque ça, c'est de la danse, et la musique, qui suit qui, si
bon, on se fait confiance. Ça dépend en fait du moment, mais enfin, dans ce duo là, c'est quand même plutôt moi qui lance le truc. Mais une fois que c'est lancé, une fois qu'il y a un tempo ou je sais pas, ou qu'il y a une énergie. Après je regarde Annabelle et enfin voilà, après il y a plus une interaction, mais on va dire que c'est plutôt moi qui commence. Et qu'est-ce que je voulais dire, je sais plus. Oui, on a fait 3 concerts là aux Zorba grâce à Doxa Esta. On a fait le nom de jazz,
oui.
Où là on a joué qu'un quart d'heure. On est passé d'une heure et quart à un quart d'heure, mais c'était cool quand même. Et après on a fait En veux-tu en v'là. Oui, c'est ça que je voulais raconter. C'était marrant parce que en fait, on a remplacé au pied levé. On nous a appelé une heure avant.
Ah oui.
Une heure et demie avant. C'était le duo de Pimprenel, là, d'Olivia Semama et Delphine Joussin.
Ah oui.
Qui jouaient là-bas. Et puis le groupe du milieu a pas pu venir. Je sais pas, il y avait un problème de train ou je sais plus quoi. Et du coup, la prog cherchait un truc. Et voilà, on est arrivé. Et on a bien retourné le bar du Cirque Électrique, là. Je sais plus comment il s'appelle.
Ah oui, oui. Ouais, bah super, super. Et alors, tu es rompu à l'improvisation, on l'a dit, mais qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce qui diffère? Est-ce qu'il y a quelque chose qui diffère d'ailleurs quand tu joues avec une danseuse du fait de jouer avec d'autres musiciens?
Ah bah là, si je suis tout seul à gérer la musique, donc ouais, c'est complètement différent. Dès qu'on est 2 musiciens, on construit ensemble, quoi.
Ouais. Mais là, du coup,
là, on est plutôt en train de construire une je sais pas quoi, une performance, quoi,
ouais.
Avec la danseuse et une transe aussi, comme on en parlait là.
Ouais. Alors, justement, tu parles du fait d'être le seul à construire la musique. J'ai vu sur ton Bandcamp. Donc il y a pas mal de choses à écouter, et j'encourage les auditeurs à aller voir. J'ai vu qu'il y a pas mal de productions en solo. Et pourquoi cette appétence
Sur Bandcamp, il n'y a que ça, parce qu'en fait, les autres, avec d'autres gens, c'est sur d'autres...
D'autres supports.
Enfin, oui, puis ça peut être sur Bandcamp, mais sur leur...
Ouais, ouais, chacun. D'accord.
Là, celui-là, c'est plus simple, parce que j'ai... En fait, Bandcamp, on peut vendre des disques,
ouais.
Mais t'as un compte affilié, donc après, si t'as pas un compte avec le groupe, c'est difficile de partager, enfin, je sais
ouais,
pas.
Ouais,
donc moi, ça, c'est mon truc, quoi, donc l'argent, il me revient, quoi.
Ah, oui. Oui, alors, ça ne retire rien à ma question de ton appétence pour faire des solos. Tout le monde ne fait pas des solos.
Ouais. Je sais pas, c'est une envie. Il y a un truc, tu as vu sur le Bandcamp, sur le premier, en fait, le tout premier, c'est un truc que j'ai fait pour une tournée au Japon.
Ouais.
En fait, j'avais une opportunité de jouer et on m'a demandé plusieurs fois de jouer en solo. Et du coup, voilà, j'ai fait un disque pour pouvoir aussi financer un peu la tournée. Et ça m'a donné ça m'a donné envie en fait aussi.
Ouais.
Mais je le faisais déjà depuis longtemps, hein, depuis que j'ai 14 ans.
Bah oui, oui. Et alors, on en parlait un petit peu avant en antenne, parmi les solos que tu as, j'ai vu qu'il y avait des interprétations assez étonnantes de Jean-Sébastien Bach.
Ouais, alors ça c'est un peu un exercice de style, quoi. C'est au moment où je suis allé au 10e. Mais bon, je te raconterai ça en détail. Mais bon, il y a un moment, j'ai étudié l'harmonie classique et notamment les chorales de Jean-Sébastien Bach, qui sont la base de l'harmonie occidentale.
Ouais.
Et pour mieux les entendre et puis pour m'amuser, puisque j'avais acheté le bouquin, le recueil, je les ai joués. Voilà, j'en ai joué. Là, j'en ai mis 44 parce que ça sonnait bien, mais il y en a 371. Voilà, j'ai pas encore fait les 371. Mais... Et l'idée, c'était d'essayer des sons de pédale, quoi. À chaque fois, chacun, j'essaye un son différent, c'est rigolo.
Alors, pour avoir fait un peu de classique, tu joues pas avec les ondes?
Non, mais j'ai jamais fait de classique, en fait. Ouais, ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que on m'a inscrit dans une école donc classique, forcément.
Ouais.
Moi, j'en écoutais pas. Et le mec m'a dégoûté. Donc, le classique, non, moi, j'ai pas voulu en entendre parler jusqu'à l'âge.
Ouais, Si je me souviens bien, ça se joue avec les doigts. Joues avec les doigts, avec la
médiator? Non, moi je joue pas de guitare classique.
J'en
ai joué un peu quand j'ai bossé un peu de bossa nova,
ouais.
Un peu de guitare brésilienne, mais je joue pas du tout de guitare classique.
Ouais. Et je me souviens de t'avoir vu il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'une jam session que tu organisais. Je crois que ça c'est...
Ah oui, avec Eric Borelva.
Ouais.
Ouais, ouais, où t'as joué ma guitare, je me souviens.
Ouais. Ouais, je vais être bien ce jour-là, moi, encore. Oui, c'était marrant. Je voudrais savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse et en quoi, en fait, de jouer justement avec n'importe qui.
Bon, t'as vu, ça c'est pas allé loin, on en fait qu'une. Ça devait être régulier, il y en a eu qu'une, en fait. Mais non, l'idée, c'était parce qu'avec Eric, ça fait un moment qu'on joue en duo. Et puis, on se disait que ça serait bien de monter un groupe, mais à chaque fois, on savait pas avec qui. Enfin, on a plusieurs idées, tout ça. Et on se disait d'organiser une jam, c'était l'occasion de faire des auditions. Mais bon, ça s'est pas passé, en fait.
Ben oui, alors tu me remémores le truc, mais je crois que j'avais pris ta guitare parce qu'il y avait un gars qui jouait fort, d'une manière fort classique, très jazz, tu vois, avec comme on joue dans le jazz, les machins, comment ça s'appelle, les grilles, là, tu vois.
Ouais.
Et moi, ça m'avait un peu énervé, je voulais faire nawak, en fait.
Ouais.
Et donc j'ai
c'est ça qu'on avait envie de faire aussi avec Eric, c'est une jam où tout est possible, quoi.
Ah oui.
C'est-à-dire que tu vas dans les jams jazz où forcément faut jouer des standards,
bah oui.
Ou dans les jams comment vous dites, musique non idiomatique, où faut surtout pas jouer de standards,
ah
et
oui.
Surtout pas jouer de
mots. Ah oui,
donc c'est con, c'est dommage, en fait. Ce qui est bien, c'est de jouer ce qu'on a envie de jouer sur le moment.
Ah ouais. Et c'est exactement ce qui se passait avec toi. Alors, je t'ai vu également dans la jam du fondeur de son. Mm-hmm. Et l'idée me vient de te demander, est-ce que tu fais partie de ce collectif?
Ah, j'en faisais partie. Je ne sais pas si je dois en parler au passé. Mais je pense que oui, j'ai l'impression.
Ah ouais.
Parce que je ne suis plus du tout actif là-dedans.
Mais
c'est encore des copains. Et si y a un coup de main à donner, je serai là. Voilà, en ce moment, non, je suis pas. En fait, il y a eu aussi des rendez-vous ratés. Il y a un disque que je voulais sortir sur le label et qui est pas sorti. Donc bon, on verra. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est tous des copains. Hein. Ouais, des copines.
Et puis j'avais bien aimé ce que tu avais fait dans cette jam aussi là, fort énergique également. je propose qu'on écoute Ostrakinda et on en parle avec Emric juste après. Thank you. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Nous venons d'écouter Ostrakinda dans les oreilles libres. Alors, Émeric, est-ce que tu peux nous présenter tout simplement ce trio?
Bien sûr, c'est le trio d'Olivier Lété, donc le bassiste du groupe. On joue ses compositions avec le batteur percussionniste Thomas Gouban.
Ah oui.
Voilà.
Et alors, ce qu'on vient d'écouter, c'est l'extrait d'un disque. Vous avez sorti un disque, c'est ça ?
Un disque qui vient de sortir sur le même label que Pomme de Terre, d'ailleurs, Jazz Door Series.
Ah oui.
Ostrakinda, Olivier Lété, voilà.
C'est le nom. Olivier Lété, Ostrakinda, c'est
le nom. Sorti le 3 mars, ouais.
Ah oui, c'est tout récent, d'accord. Et donc là, c'est les compositions de Olivier, c'est ça ? Olivier Lété.
Sauf un morceau qui date de la Grèce antique.
Ah, d'accord.
Ah, je vois que ça t'intéresse.
Il est super,
ouais.
La Grèce antique, c'est incroyable. Et alors, est-ce que l'un comme l'autre, on va commencer par toi, Émeric, as-tu des idées de groupe ou de création à venir à l'état avancé ou à l'état embryonnaire, si jusque des idées dans ta tête?
Non, c'est vraiment, là, je suis concentré sur Pomme de Terre et le nouveau groupe aussi à la batterie. Je sais pas s'il s'appellera à Mourir à la Fnac ou
ouais, c'est un nom
à la Drac, je sais pas.
Pour écrire à Drac, ce serait pas mal.
C'est vrai, hein?
Ah oui, j'aimerais bien. Et oui, alors toi, puis je t'ai pas demandé aussi, est-ce que t'as d'autres formations? Peut-être tu peux les citer quand même.
Ouais, alors j'en ai enfin, un mon nom, non, mais je veux dire, je joue dans plein d'autres groupes, quoi. Je risque d'en oublier, hein, si je le dis, mais le Griot, Grand Impérial Orchestra, le nouveau groupe de Christophe Moniaud, Sextet. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, sûrement